Bonjour Claude.
Bonjour Nicolas.
La fierté du port de Marseille et dans la Provence.
Et la fierté de ces dockers que le journal appelle les dockers de l'extrême. Ils manœuvrent les plus grands portiques du monde dans des cabines perchées à 54 mètres du sol. Des monstres d'acier, décrit la Provence, qui frémissent quand le Mistral souffle en rafale et dans la cabine, manipulant ce qui ressemble à un joystick de jeu vidéo. Les dockers s'en vont chercher dans les entrailles des navires des conteneurs pesant plusieurs tonnes. Voilà, c'est un reportage sur le grand port de Marseille, donc Fos-sur-Mer, qui veut redevenir le premier port européen. Et on retrouve dans la Provence presque le lyrisme de l'art industriel. Ma blonde, entends-tu dans la ville siffler les fabriques et les trains.
Vous voilà. Chantez bien,
c'était
hein, quand
une
même.
Vieille chanson communiste sur une musique de Shostakovich.
Pas d'Askolovitch, hein.
Bien sûr, on n'en est pas là, Nicolas. Dans la Provence, mais il y a quand même, sérieusement, un optimisme et un volontarisme dans le journal autour d'un projet industriel qui raconte un changement. Quel changement ? On le comprend quand on feuillette la Provence par ailleurs. On y lit des histoires de meurtres. Le dernier en date, un adolescent abattu par des inconnus à qui il avait ouvert la porte en pleine partie de PlayStation. On lit dans la Provence que les employés municipaux de Marseille sont soupçonnés de ne pas travailler beaucoup, mais ils vont passer à la pointeuse électronique. On lit aussi qu'à Marseille, le cours Julien, c'est un quartier artiste marginal, une capitale du street art presque, est menacé par la violence. Que de mauvaises ondes, mais à côté, le port et la fierté retrouvée des dockers. Est-ce que cela parle juste de Marseille ou de tout le pays ? Tout n'est pas si simple. On lit aussi dans le Figaro et dans les Échos que Airbus envisage d'arrêter la production du grand avion A380 faute de commandes. Et les Échos détaillent minutieusement un fiasco commercial d'un avion qui n'est pas conçu pour son époque. Mais quand même, nous avons vendu. Oui, j'ai dit nous, Nicolas. Airbus a plus vendu d'avions que Boeing l'an dernier, ma blonde.
La génération j'ai le droit, est à la une du Parisien aujourd'hui en France.
Le Parisien qui fronce les sourcils contre les jeunes dans un grand classique du tout fout le camp. Et ce sont deux pages très bien faites mais qui relèvent moins de l'enquête que de la mauvaise humeur parentale. L'éditorial du journal Le Parisien s'intitule « Non, vous ne rêvez pas », je cite. « Vous courez après votre enfant de 9 ans qui refuse obstinément de ranger sa chambre. Vous le menacez d'une fessée et lui vous dit « Tu n'as pas le droit et moi j'ai le droit de porter plainte ». Mais le journal nous explique ensuite que ce petit bonhomme est en réalité un fait de société, la preuve d'une génération qui fait passer le « je » avant l'intérêt général. Le dossier est un peu confus, qui passe de la crise de la culture et de l'autorité à des gamins qui tutoient les profs en classe, mais il y a un sens politique quand l'éditorial se conclut ainsi. Ces petits énergumènes sont de plus en plus nombreux. Et il va aussi falloir leur apprendre qu'ils ont des devoirs. Et on comprend là que l'on ne parle pas tant des enfants que de ce besoin d'ordre et d'autorité qui transpire de nos journaux et qui traverserait toute la société française. Le Figaro ainsi nous dit à la une, sondage à l'appui, que les Français veulent de la liberté en économie certes, mais être d'abord protégé. Le courrier Picard met à sa une, c'est ce que lisent tous les habitants de la Somme et de la Picardie, ils mettent à la une ce qu'ont subi à Saint-Denis dimanche dernier les jeunes footballeurs d'Amiens quand 150 personnes ont envahi le terrain et menacé les gamins vainqueurs de l'équipe locale. On lit aussi dans nos journaux le témoignage de gardiens de prison face à des détenus plus jeunes et moins respectueux, c'est dans Libération. Un autre surveillant est interrogé dans les dernières nouvelles d'Alsace. On nous crache dessus, on nous mord, on nous insulte. Devons-nous risquer notre vie pour 1500 euros. On lit les journaux et on espère l'ordre, forcément, mais il n'y a pas que cela. D'autres espèrent la justice, ainsi ces militants qui accompagnent les migrants à Calais et qui, dans l'humanité, interpellent Emmanuel Macron. Il ne se résigne pas au désordre de l'injustice, tel cet homme qui a vu un jour un migrant boire dans une flaque d'eau, Nicolas.
Une enquête dans les jours, le site internet sur les habiletés fiscales de Lactalis.
Ce géant du lait dont on parle tant et qui cultive le secret, mais avec le scandale vient le dévoilement. Donc dans les jours où l'on découvre une société luxembourgeoise, filiale de Lactalis, une holding qui s'appelle EKB International. Simple boîte à lettres, ne disposant aucun salarié, mais quand même le PDG de Lactalis, Emmanuel Besnier, siège en son conseil d'administration. EKB International achète des espaces publicitaires, puis le refacture plus cher à Lactalis, ou bien dépose des marques du groupe, ainsi s'externalise des profits dans un pays clément fiscalement. On pourrait presque mettre, Nicolas, cette histoire sur le compte du « moi-je » que l'on reproche aux enfants. Après tout, Lactalis a bien le droit d'exfiltrer ses profits. Et vous savez, les adultes ont le droit de se faire plaisir. Parfois, c'est même bénéfique. Ainsi, Le Monde raconte dans un papier réjouissant le plaisir que prennent les utilisateurs des voitures électriques qui conduisent dans un silence et une rapidité, une fluidité qui fait d'eux les rois du monde. C'est donc en jouissant du monde et de l'électricité qu'on sauvera la planète.
Et pour finir, Claude, la romance brisée de Donald Trump et d'un grand patron de médias.
Et ça, c'est une histoire absolument fantastique parce qu'elle prend le contre-pied de ce qu'on raconte habituellement sur le président des États-Unis. C'est dans Les Échos. C'est donc l'histoire de Jeffrey Zucker, l'ennemi préféré de Trump, dit le journal. C'est le patron de CNN, chaîne que le président américain cible régulièrement et veut abîmer. Il s'oppose ainsi à la fusion entre AT&T, le géant des télécommunications, et Time Warner, maison mère de CNN. Mais il s'agit ici d'une trahison, le sentiment de trahison qu'exprime Trump envers un homme, Zucker, qui fut son partenaire. Et on découvre dans Les Échos que dans une vie antérieure, c'est Jeffrey Zucker qui avait lancé la carrière télévisuelle de Trump. C'est lui qui avait porté l'homme d'affaires à l'écran dans le reality show The Apprentice. On découvre que Trump, qui invitait Zucker à ses fêtes familiales, avait aidé cet homme à rejoindre Time Warner et à prendre la tête de CNN. On découvre que CNN utilisait Trump pour faire de l'audience en l'invitant systématiquement à l'antenne et en le valorisant face à ses rivaux républicains, jusqu'au jour où CNN a décidé de faire du fact-checking et du journalisme sur Trump, qui évidemment l'a mal pris. « Tu es l'homme le plus déloyal que je connaisse », a-t-il dit à Zucker. « Déloyal, je ne sais, cynique certainement. Parfois, même Donald Trump a ses raisons. »
Claude Haskolovitch, merci pour cette revue de presse.